Nous avions laissé l'apôtre Paul dans la ville de Corinthe la semaine dernière, dimanche passé, ville de Corinthe où il a probablement écrit deux lettres aux Thessaloniciens, donc aux chrétiens de la ville de Thessalonique, où il était passé quelques semaines, quelques mois auparavant, et où il avait fondé une église. Il a annoncé l'évangile dans cette ville de Thessalonique pendant 2-3 semaines, et puis des responsables religieux juifs, jaloux de l'annonce de l'évangile, ont commencé une persécution, et Paul a dû partir, il a dû fuir cette ville de Thessalonique, et nous avions vu dans sa première lettre aux Thessaloniciens dimanche passé, comment Paul s'inquiétait par rapport à la santé spirituelle de ces jeunes convertis, de ces jeunes chrétiens à Thessalonique. Et nous allons regarder ce matin ce qu'il dit dans le début de sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Donc si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez chercher cette lettre de Thessaloniciens, chapitre 1. Nous allons lire ce chapitre ensemble. Nous avions vu que Paul envoyait Timothée, son fidèle collaborateur, pour prendre des nouvelles de ces chrétiens de Thessalonique et pour pouvoir se réjouir de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Voyons ce qui s'est passé depuis la première lettre, depuis la dernière fois, et regardons ensemble ce matin, là encore, comment Paul prie pour ces chrétiens de Thessalonique. Alors lisons ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Paul, Silas et Timothée saluent l'église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu, qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder, à vous qui souffrez, du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne de ceux qui lui appartiennent et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Après quelques mots habituels de salutation au verset 1 et 2, et où Paul appelle la grâce et la paix de Dieu sur ces chrétiens de Thessalonique, verset 2, Paul prie pour eux, et nous allons regarder ensemble ce matin cette prière de Paul en trois temps. D'abord, les versets 3 à 4, et ce que nous avons déjà vu dans de précédentes prédications, que nous appelons l'action de grâce, ou ces paroles de reconnaissance que Paul exprime à Dieu pour ceux à qui il écrit la lettre. Je les relis. « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. » On avait déjà rencontré ce type de formulation dans 1 Corinthiens chapitre 1 et 1 Thessaloniciens chapitre 1. Paul dit « Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu, à votre sujet. » C'est quelque chose qui est presque plus fort que lui. Nous devons. Paul se fait un devoir de remercier Dieu pour son œuvre dans la vie des Thessaloniciens. Nous devons rendre grâce à votre sujet. C'est au sujet de ces chrétiens de Thessalonique que Paul remercie Dieu. Et il adresse donc son remerciement à Dieu. C'est à lui que va la louange, pas aux Thessaloniciens. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère. Et Paul dit qu'il remercie Dieu continuellement, c'est-à-dire pas une fois comme ça en passant, mais régulièrement dans ses prières, Paul remercie Dieu pour les Thessaloniciens. Alors, pourquoi Paul est-il reconnaissant? Pourquoi remercie-t-il Dieu? C'est ce que nous trouvons au verset 3. Votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Paul avait laissé ses jeunes chrétiens avec l'évangile qu'il leur avait annoncé. Il avait commencé à leur enseigner les bases de la foi chrétienne, eux qui avaient reçu, accepté avec joie l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ par la foi. Et Paul avait dû partir. Et Paul était inquiet. Inquiet que Satan ne réduise à rien le travail qu'il avait fait, ce qu'il avait commencé à semer. Et c'est la raison pour laquelle il avait envoyé son collaborateur Timothée. Et là, Paul, dans cette deuxième lettre, se réjouit parce qu'il constate que les Thessaloniciens progressent dans la foi. Paul se réjouit que ces chrétiens n'ont pas seulement reçu le salut par sa prédication de l'Évangile, mais aussi qu'ils progressent dans leur marche avec le Seigneur, en qui ils se confient. Ils progressent dans la foi, c'est-à-dire pas seulement dans leur connaissance intellectuelle, mais dans la confiance qu'ils font, jour après jour, en Dieu, à cause de cet Évangile qu'ils ont reçu. Tout jeunes chrétiens qu'ils sont, Paul discerne chez eux des fruits de la maturité spirituelle. Votre foi augmente et Paul s'en réjouit. Deuxièmement, Paul se réjouit parce que l'amour de ses Thessaloniciens ne cesse lui aussi de progresser, d'abonder, on trouve dans une autre traduction. Votre amour ne cesse d'abonder les uns pour les autres. Leur maturité spirituelle augmente, mais pas seulement des bonnes idées sur ce qu'est la foi chrétienne. Ces idées se traduisent par des relations transformées par l'amour. La jeune foi de ces chrétiens se traduit dans des actes d'amour au sein de la communauté. En pensant à cela, je me suis dit, tiens, ce midi, nous avons une agape. Agape, c'est le genre de mot qui passe dans notre vocabulaire évangélique, et puis au bout d'un certain temps, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Agapé, c'est l'amour en grec. l'amour inconditionnel, l'amour qui se donne. Lorsque nous organisons une agape ou un repas fraternel, c'est bien un repas fraternel que nous organisons. Quel repas fraternel allons-nous partager tout à l'heure? Paul, à l'image de ses Thessaloniciens, nous encourage à grandir dans l'amour les uns pour les autres. Et ce repas que nous allons partager tout à l'heure est une occasion d'exprimer notre amour les uns pour les autres. Paul voit une conséquence de cette foi qui grandit et de cet amour qui abonde. C'est ce qu'il dit au verset 4. « Nous nous glorifions de vous, autrement dit, nous sommes fiers de vous, à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes les persécutions et les souffrances que vous endurez. » Autrement dit, grandir dans l'amour et dans la foi, verset 3, permet de persévérer dans l'épreuve, verset 4. Grandir dans la foi et dans l'amour permet de persévérer dans les épreuves. Paul est fier des progrès spirituels des Thessaloniciens. Et il en parle dans les églises, dit-il. C'est-à-dire que quand il passe dans les églises, qu'il annonce l'évangile, eh bien il dit, vous savez, les chrétiens de Thessalonique, voilà, ils font des progrès dans la foi. Et lorsqu'ils sont persécutés, lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, ils grandissent dans l'amour les uns pour les autres. Faites comme eux. Regardez ce que le Seigneur fait dans leur vie. Et agissez de même. Paul ne passe pas d'église en église pour dire, eh les gars, vous avez vu, je suis un bon apôtre quand même. Hein. Vous avez vu ces chrétiens de Thessalonique, ils sont bons, hein. C'est grâce à moi. Non, Paul dit, merci Seigneur de ce que tu fais dans la vie de ces Thessaloniciens. Paul ne se félicite pas lui-même, mais il profite de cette occasion, il a connaissance que ces chrétiens grandissent dans la foi et dans l'amour, il s'en réjouit et il en remercie le Seigneur. Voilà donc cette action de grâce, versets 3 et 4, où Paul exprime ses motivations dans sa prière. Regardons maintenant les versets qui suivent, versets 5 à 10, où Paul va développer son propos par rapport à la situation particulière de ces chrétiens à Thessalonique. Paul a parlé à la fin du verset 4 des persécutions, des détresses, des souffrances que ces jeunes chrétiens rencontrent dans leur ville. Paul va les encourager dans cette situation. Je relis le verset 5. « Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. » Ce verset est important et les versets qui suivent, 6 à 10, semblent être une sorte de commentaire de ce verset 5. Verset 6 commence par le mot « car » ou « en effet » qui découle de ce verset 5. L'apôtre Paul parle ici d'une preuve. On ne l'a pas dans toutes les traductions. Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu ou « voici la preuve du juste jugement de Dieu ». Quelle preuve ? Preuve de quoi ? Paul dit que ce sont les persécutions et les souffrances que les Thessaloniciens connaissent à cause de leur foi qui constituent la preuve du jugement de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Le verset 5 dit « Le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. » Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous passons par telle ou telle situation et pourquoi dans le monde les chrétiens sont persécutés. Eh bien, Paul nous donne un indice ici. Afin que vous soyez rendus dignes ou trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. deux choses par rapport à ce verset 5. Premièrement, Paul dit que les chrétiens qui souffrent ne souffrent pas en vain. Les chrétiens qui souffrent ne souffrent pas en vain. Ils souffrent pour le royaume de Dieu, en vue du royaume de Dieu. Ici, Paul ne fait que reprendre à sa manière les paroles mêmes de Jésus par rapport à la persécution. Souvenez-vous de ce qu'il dit à ses disciples. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et Paul appelle même ses disciples à bénir ceux qui les maudissent, à aimer ceux qui les persécutent. On trouve aussi dans la première lettre de Pierre ces quelques versets. Je vous invite à méditer à nouveau. « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. » Pierre compare les persécutions, les épreuves à une véritable fournaise. « N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires des autres. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement, il commence par le peuple de Dieu. Et il débute par nous. S'il débute par nous, quel sort sera celui de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu ? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur ? Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. Des paroles peut-être difficiles à entendre. Se réjouir lorsque nous souffrons. Continuer à faire le bien quand on nous fait du mal. Voilà qui n'est pas facile. Et dans sa grâce, et c'est la deuxième chose que je retiens de ce verset 5, après l'idée que les chrétiens ne souffrent pas en vain, la deuxième idée c'est que dans sa grâce et dans sa souveraineté, Dieu utilise, comment je ne sais pas, mais Dieu utilise les circonstances difficiles pour purifier, pour sanctifier, pour faire progresser dans la foi et dans l'amour ses enfants, pour, comme le dit Paul ici au verset 5, les rendre dignes du royaume de Dieu. Souffrir pour Jésus-Christ contribue d'une manière ou d'une autre à notre purification. Alors, il ne s'agit pas ici de rechercher la souffrance elle-même, mais premièrement, de ne pas être surpris si cela arrive, de souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Et deuxièmement, de s'inquiéter si cela n'arrive jamais. Paul dit qu'il y a là une preuve que le jugement de Dieu commence d'une certaine manière. Un tri est déjà en train de s'opérer dans ce monde, entre ceux qui ont reçu l'évangile, qui persévèrent dans la foi, qui tiennent bon dans les épreuves, et ceux qui rejettent l'évangile. Il y a une preuve que entre ceux qui sont disciples du Christ et ceux qui ne le sont pas, Dieu est en train de faire le tri. Il y a là un avant-goût du jugement final. C'est ce que nous disent les versets 6 à 10. Notez que Dieu n'attend pas sans rien faire. Il y a un jugement qui tombera sur les persécuteurs. Les persécuteurs seront eux-mêmes punis, verset 6. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Verset 8. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et au verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Voilà ce qui attend ceux qui rejettent Jésus-Christ. Mais pour ceux qui souffrent avec le Christ, pour le Christ, eux recevront le repos éternel. C'est ce que dit le verset 7. Et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. Cela se produira, pas tout de suite, mais lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants. Et encore au verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne de ceux qui lui appartiennent et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. Il y a donc une bonne et une mauvaise nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle, un parfum de bonne odeur pour ceux qui le reçoivent. Et Paul dit ailleurs, une odeur de mort, une mauvaise odeur pour ceux qui le rejettent. On trouve dans ce texte des formules qui paraissent un petit peu bizarres. Peut-être vous les avez notées, peut-être elles sont marquées en italique dans la traduction que vous avez sous les yeux. C'est le cas dans la version Semeur. Qu'est-ce que c'est cette flamme qui est là au verset 8 ? Cette formule, il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, verset 8. Et au verset 9, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Paul, semble-t-il ici, fait allusion ou cite des textes de l'Ancien Testament. Nous trouvons dans le psaume 79, au verset 6 et 7, psaume 79, verset 6 et 7, ces paroles « Répands ta fureur sur les peuples, ceux qui ne te connaissent pas. » Il semble que Paul reprenne cette parole des psaumes, qu'on retrouve textuellement aussi dans Jérémie, chapitre 10, verset 25. Psaume 79 et Jérémie 10. Et nous voyons aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66, ces paroles. Écoutez bien. Car l'Éternel interviendra en faveur de ses serviteurs, mais il s'irritera contre ses ennemis. Car l'Éternel va venir dans le feu, dans une flamme, et ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et pour accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement, et avec son épée qu'il châtiera tous les humains, et l'Éternel fera un très grand nombre de victimes. » Des paroles difficiles à entendre. Un jour viendra où le tri qui est en train de s'opérer sera parfaitement clair, où ceux qui auront accepté et ceux qui auront rejeté l'Évangile seront devant Dieu, tous. Et seuls ceux qui auront mis leur confiance en Jésus-Christ passeront le test. Parce que le sang de Jésus, comme cela a été rappelé tout à l'heure, couvre déjà leurs péchés. Paul signifie aux Thessaloniciens que ce jour du jugement n'est pas encore là, qu'il est encore à venir. Et si vous lisez la suite du texte de ce matin, chapitre 2, vous verrez qu'il y a toute une effervescence autour du retour de Jésus et certains dans l'Église pensent que Jésus est déjà revenu et, par exemple, il n'y a plus besoin de travailler puisque voilà, Jésus est là, et l'Esprit est là, et tout le monde est content, mais voilà, il y a encore un jugement à venir. Et c'est pour ça que Paul cite ces textes de l'Ancien Testament et enseigne ces jeunes chrétiens sur ce jugement qui est à venir. L'objectif de Paul, ici, c'est d'encourager ces chrétiens à tenir bon dans l'épreuve, à persévérer dans la foi, en plaçant leur confiance en Dieu et en grandissant dans cette foi par l'amour envers les autres. Et ce sont ces raisons que Paul va reprendre dans sa prière. Et nous allons voir maintenant les derniers versets, versets 11 et verset 12. Paul dit au début du verset 11, « C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous. » C'est pourquoi, fait le lien avec ce que Paul a dit juste avant. Je relis. « C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » En lisant cette prière de Paul, cette prière qu'il formule dans ces deux versets, j'ai été choqué. Je ne sais pas si vous êtes étonné vous-même, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui manque dans cette prière. Qu'est-ce qui manque dans cette prière? Paul vient de parler pendant plusieurs versets des situations qui concernent les Thessaloniciens, des souffrances, des persécutions, des détresses qu'il rencontre. Paul prie et il ne dit pas un mot de cela. Vous avez remarqué? Paul ne parle pas dans sa prière des souffrances et des persécutions que les Thessaloniciens rencontrent et dont il est au courant, puisqu'il les enseigne et qu'il les encourage à persévérer dans la foi. Paul aurait pu prier, par exemple, que Dieu fasse cesser les persécutions, ou bien que Dieu apaise les souffrances des Thessaloniciens. Eh bien non. Peut-être vous avez suivi ces derniers jours dans les actualités l'enlèvement de ce prêtre français au Cameroun. Et ces derniers jours, nombreux ont été les appels à fuir une situation risquée, voire dangereuse. On a demandé aux ressortissants français de partir parce que c'est dangereux, parce que des sectes, parce que des groupes terroristes, des fanatiques religieux, au nom de Dieu, enlèvent et tuent des gens. Ce prêtre, lui, est resté. On pourrait se dire, peut-être par inconscience du danger. C'est possible. Mais plus probablement, par choix délibéré. Pourquoi ? Peut-être avait-il en vue une mission plus vitale que celle de sauver sa peau. Vous avez peut-être en mémoire ce qu'ont fait les moines de Tibérine il y a quelques années et qui ont payé de leur vie leur désir de rester comme témoins de l'Évangile dans leur pays. Alors, il n'y a peut-être pas de règles systématiques ou de recettes à appliquer dans toutes les situations. Toujours partir ou toujours rester, je ne sais pas. Il y a probablement des moments où il vaut mieux fuir et d'autres où il vaut mieux rester. La question, c'est peut-être, que vaut-il mieux faire pour le Christ ? Que nous dit Paul dans sa prière? Pourquoi prie-t-il? Paul prie que Dieu trouve les Thessaloniciens ou les rende dignes de l'appel qu'ils ont reçu. Quel est cet appel ? Eh bien, c'est le salut dont Dieu est la source et que le croyant reçoit par la foi. Les Thessaloniciens sont appelés, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés. Et là, il n'y a rien à faire à cela, rien à ajouter. Par contre, ce qui est à faire quand on est sauvé, c'est d'être trouvé digne de cet appel, c'est-à-dire d'être à la hauteur. Grandir dans la foi pour plaire à Dieu et être finalement jugé digne de l'appel reçu. Être digne d'être enfant de Dieu. Et ce travail, être rendu digne, être trouvé digne, eh bien, c'est la grâce de Dieu qui l'opère. C'est Dieu qui rend digne. C'est pourquoi, verset 11, nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous rende digne, qu'il vous trouve digne de l'appel, c'est-à-dire de son appel à lui. Paul demande à Dieu d'œuvrer dans la vie des Thessaloniciens pour qu'il les trouve dignes de son appel. Quand avons-nous prié comme cela pour la dernière fois? Quand on voit ce pourquoi Paul prie et qu'il ne prie pas pour un soulagement des Thessaloniciens, pour que Dieu écarte les souffrances et les détresses, cela m'amène à la question: à quel type de prière dépensons-nous notre énergie? Par exemple, pour nos enfants, pour nos jeunes. Je vais vous lire un extrait de ce petit livre de Don Carson, La prière renouvelée. À quoi dépensons-nous notre énergie? À prier pour que nos enfants réussissent leurs examens, trouvent un bon travail, soient heureux ou qu'ils soient dignes de leur statut de chrétien. C'est important, hein? La réussite scolaire, trouver un travail, c'est des choses importantes, il ne faut pas les négliger. Lorsque nous demandons à des parents des nouvelles de leurs enfants, ils nous font généralement ce type de réponse. « Oh, Jean-Paul va très bien. Sa carrière commence vraiment à décoller. Il est le plus jeune cadre de son entreprise. Et Evelyne va bien aussi. Elle travaille dans l'informatique et a déjà été promue chef de service. » Question. Et comment vont-ils d'un point de vue spirituel? Long silence. Et puis... Je crains qu'ils ne marchent pas vraiment avec le Seigneur pour le moment, mais nous espérons qu'ils reviendront à lui un jour. Il se peut bien entendu que cette réponse soit dictée par la discrétion et le souci légitime de ne pas déprécier leurs enfants. Mais trop souvent, elle reflète des priorités erronées. Il m'est arrivé que des parents, prétendument chrétiens, me reprochent d'avoir incité leur brillant rejeton à se former pour le ministère pastoral ou le service missionnaire. D'autres se réjouissent de la prospérité matérielle de leurs enfants, mais ne s'inquiètent pas outre mesure de leur indifférence envers leur Créateur. Que restera-t-il de ces valeurs dans 30 ans ou dans 40 milliards d'années? Dans la perspective de l'éternité, que devrions-nous demander en priorité pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour les autres croyants? Quand, pour la dernière fois, avons-nous adressé de telles requêtes à Dieu? Depuis quand ne lui avons-nous plus demandé qu'il nous trouve digne de son appel? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en entendant cela, je me dis que j'ai encore du chemin à faire pour apprendre à prier, pour apprendre à prier comme Paul le fait, en suivant les traces de Jésus-Christ. Mais c'est à cela que l'Écriture nous appelle, à penser différemment de ce que le monde pense. parce que Dieu veut nous rendre dignes de son appel, dignes du salut qu'il nous a offert gratuitement, comme cela a été rappelé tout à l'heure. Et au verset 11, Paul nous dit que Dieu, par sa puissance, peut accomplir ou faire aboutir ses projets. Que Dieu, par sa puissance, fasse aboutir tous les désirs des Thessaloniciens, les désirs de faire le bien et les œuvres qui proviennent de leur foi. De nouveau, ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Par sa puissance, et Paul dit aussi, que Dieu accomplisse, que Dieu fasse aboutir. Ce qui veut dire que sans la puissance de Dieu, dans la vie des Thessaloniciens, aucune action qu'ils puissent entreprendre ne produira de fruits spirituels durables. Cet après-midi, nous avons une réunion de prière. Voilà une formidable occasion de nous placer devant le Seigneur ensemble pour lui demander de guider et de faire aboutir nos projets. Rappelons-nous que sans son soutien, sans sa puissance, nous ne pouvons pas porter de fruits spirituels durables. Ce n'est pas parce que nous allons prier cet après-midi que Dieu va faire aboutir nos projets. C'est l'inverse. C'est parce que Dieu, et Dieu seul, par sa puissance, mène à bonne fin ces projets que nous allons chercher ensemble pour faire sa volonté et lui demander d'ouvrir les portes aux œuvres bonnes qu'il veut nous voir accomplir pour cette ville du Blanc-Mesnil. C'est cela que Dieu veut accomplir. Paul termine en précisant le but ultime de sa prière. C'est le verset 12, je le relis en conclusion. Ainsi le Seigneur Jésus-Christ sera honoré, glorifié en vous, et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Le but ultime de la prière de Paul pour les Thessaloniciens, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Que les Thessaloniciens grandissent dans la foi, que leur amour les uns pour les autres abonde, c'est important. Mais ce n'est pas l'objectif ultime. C'est un moyen que Dieu utilise pour que Jésus-Christ soit glorifié. Ce qui veut dire que tout ce qui, dans notre vie personnelle ou dans notre vie d'église, n'a pas pour but ultime de glorifier Jésus-Christ, est un détournement par rapport au but initial. Colossiens 1, verset 16 dit que tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ. C'est donc Christ qui doit être glorifié par nos progrès dans la foi, par l'abondance de notre amour les uns pour les autres, par nos réunions de prière, par nos groupes de quartier, nos groupes de femmes, nos groupes de jeunes, nos prédications, nos cultes, nos différents services pratiques, nos visites aux frères et sœurs, etc. Si dans ces choses, nous cherchons une place pour être reconnus à notre juste valeur, si nous recherchons une activité qui nous mette en valeur, si nous recherchons une louange de la part des autres, alors nous ne cherchons pas d'abord la gloire du Christ, mais la nôtre. Ceci dit, vous l'avez peut-être déjà noté, Paul parle aussi de l'honneur ou de la gloire des Thessaloniciens. Vous avez vu au verset 12, « Et vous en lui, et vous en lui. » Romains 8, verset 30, dit aussi que les rachetés seront glorifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire grâce à l'œuvre de salut qu'il a accomplie à la croix et parce qu'il est ressuscité. Nous serons un jour pleinement participants de sa gloire. Et déjà, nous en avons un aperçu. Nous avons commencé en quelque sorte, le processus pour être transformé à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. 2 Corinthiens 3, verset 18. Paul termine sur cette note. C'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Si nous avions quelque espoir de terminer sur une gloire personnelle, Paul nous rappelle tout de suite à l'essentiel. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce, c'est-à-dire par la libre initiative de Dieu pour nous sauver et pour nous transformer afin d'être trouvés dignes de son appel. C'est par la seule grâce de Dieu que notre Dieu et Sauveur, Dieu et Seigneur Jésus-Christ est glorifié en nous et nous en lui. À lui la gloire. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions. Te remercions pour ta parole, pour le modèle que Paul est pour nous dans sa vie de prière. Seigneur, apprends-nous à prier, aide-nous dans nos prières, à ne pas regarder seulement à cette vie présente, mais à tourner nos regards vers toi pour l'éternité, à discerner l'œuvre que tu accomplis dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, dans ce monde. Seigneur, ouvre nos horizons. Et alors que nous voulons manger ensemble ce midi, prier ensemble cet après-midi, que ton esprit nous conduise dans nos pensées, dans nos prières, nous souffle ce qui est conforme à ta volonté pour notre vie à chacun, pour notre vie d'Église. Seigneur, que veux-tu que nous fassions pour cette journée, pour cette semaine? Seigneur, que veux-tu que nous disions dans cette ville du Blanc-Mesnil? Nous cherchons ta volonté, Seigneur, et nous te demandons que tu nous aides à tourner nos regards vers Jésus-Christ, pour que lui et lui seul soit glorifié. Amen. Amen.